France Inter, franceinter.com.
Chaleur dans ce studio, c'est inoxydable. Et puis comme dirait José, ça va dérouiller, mon cher José.
Il ne faut jamais dire, oui, c'est vrai, ça va dérouiller, parce qu'ils veulent qu'on le redise. Alors, qu'il fait chaud.
Ah, celui-là, là, il fait studio, carrément chaud, là.
Qu'on n'a pas été payé, que ça, ça ne se fait pas. Tout le monde sait qu'à France Inter, on manque de galettes.
Bon, allez, enlevez votre petite écharpe blanche. Alors, avant de commencer votre revue de presse, oui. Requête massive de vos auditeurs interactifs. Vous savez, ceux qui vous envoient des petits courriers sous forme de arrobase. La semaine dernière, on n'a pas pu entendre la fin de votre histoire courte mais bonne.
Oui, parce qu'il paraît qu'il y a un appareil. Bon,
le podcast,
rien.
José.
Bon, très bien. C'est pour ça que j'ai une jeune avec moi. Il paraît que ça s'arrête net comme ça. Alors, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est un peu comme les réveils matins qui se coupent, vous savez, les postes. Donc, ils n'ont pas entendu cette histoire absolument géniale. C'est parce que c'était la Saint-Marius. Et je disais simplement, c'est les deux mecs de Marius là, qui parlent et qui font « Je marie ma fille ». Oh putain ! Non, pas l'aînée, la cadette. Voilà, c'est un chef-d'œuvre.
C'est
un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre de la pensée française. Alors maintenant, la revue de presse, parce qu'il faut que je me débouche là un petit peu, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire ?
Oui,
c'est un néologisme. Il y en a plein en ce moment. Je ne sais pas si vous savez.
Il fait trop chaud, allez-y.
Oui, alors oui, c'est vrai. Pourquoi ? Je commence par qui ? Je commence par le canard enchaîné. Allez hop, si vous voulez, on va prendre le canard enchaîné. Il y a une manchette. Beauvais veut être candidat. C'est rien que pour faucher des voix. C'est assez amusant. Et l'autre, alors celle-là qui est un cabu, donc c'est merveilleux. Et il est en train de fumer calmement. Il fait beaucoup de fumée avec sa pipe. Et il y a des gens autour de lui qui font « Mais alors, est-ce que vous allez y aller ou pas ?» Et il dit « Une fumée blanche, ce sera oui. Une fumée noire, ce sera non. » Et ça, c'est le graphisme de cabu. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est Charlie Hebdo. Alors, je continue là. La disparition de l'abbé Pierre, vous êtes au courant, parce que ça serait difficile de ne pas l'être. D'ailleurs, je voudrais à propos de ça dire quand même une chose importante et ridicule. Le TF1 et France 2 se sont mis pour le même programme, avec des cartes différentes, des moyens techniques qui coûtent une fortune, pour faire un seul spectacle qui était les obsèques, l'hommage. Au lieu de faire ça, ils se mettaient d'accord tous les deux pour une fois dans leurs intérêts et ils donnaient la différence de pognon aux œuvres de l'abbé Pierre.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est tellement bête qu'on se demande comment des gens qui sortent ou de l'ENA ou de Sciences Po ou de ceci peuvent faire des choses comme ça. C'est très grave. Bon. Alors, je vais peut-être me mettre encore en colère. J'ai gardé ma puissance d'animation. C'est merveilleux. Alors, la disparition de la bébé, c'est charmant. Là, ce sont deux SDF qui sont devant un brasero. Et il dit, le pauvre, il n'aura même pas connu le réchauffement de la planète. Et puis, il y a, là, c'est toujours lui, les nouveaux chiffonniers. On voit l'abbé Pierre, à l'époque du début, il a une charrette et il met, je récupère tout. Et il y a Chirac avec une couronne qui fait « moi aussi ». Et puis derrière, il y a Sarkozy qui fait « moi aussi ». Et puis il y a Ségolène qui fait « moi aussi ». Très, très beau dessin. Une autre manchette. Il a droit à un hommage national, mais les rêves de l'abbé Pierre sont enterrés depuis longtemps. C'est ça, surtout avant les élections. Et après, alors, on n'en parle même pas. Et il est là sur son lit de mort et ça donne « je lègue toutes les promesses qu'on m'a faites aux enfants de Don Quichotte ». C'est plus profond que ça n'a l'air. Hein. Et réfléchissez. Alors maintenant, on passe à Charlie Hebdo. Alors là, ça déplaît à des gens. Je peux vous dire, les gens de la frange, c'est très difficile. Sarkozy veut une nouvelle loi pénitentiaire. C'est important vu le nombre de gens que je compte envoyer en prison. Il y a Sarkozy qui est dans le petit écran et qui dit « J'ai changé !» Et Chirac dans son fauteuil qui fait « Quand t'auras changé autant que moi, tu pourras parler. » Ça, c'est un chef-d'œuvre de Camus, encore une fois. Là, c'est Jaurès. Vous savez, on en parle beaucoup. Alors, il y a le petit diablotin de Sarkozy qui fait « Jaurès, Blum, Guy Moquet !» Et il y a, à ce moment-là, Ségolène qui se penche de sa tribune sur son mari et qui dit « Quel homme politique de droite pourrais-je citer ?» et l'autre fait « Mitterrand ?» Et puis, qu'est-ce que j'ai là encore ? Ah, j'ai ça. Tabac. Alors ça, c'est un peu peur. Des substituts nicotiniques seront remboursés à partir du 1er février. On prévoit une razzia sur les suppositoires à la nicotine. Là, il y en a un très mauvais goût. Vraiment, j'ai hésité.
C'est pour ça que vous l'avez retenu.
Ben, j'ai hésité. Et j'hésite même encore un petit peu, je vais voir. Je me consulte et je comme le dit, peine de mort, la tête du demi-frère de Saddam a été arrachée lors de sa pendaison. Pour le coup, c'est vraiment le demi-frère de Saddam. Ça, c'est comme ça, j'aurais pas dû. Ça, j'aurais pas dû le dire, je le reconnais. Hulot n'est plus candidat. Et comme par hasard, ça se rafraîchit. Et là, il y a ce c'est très mignon, ça, c'est Schwartz. C'est comment il s'appelle c'est Laguiller. Laguiller qui parle de son pognon, de son patrimoine. Et elle chante non, rien de rien, non, je ne possède rien.
C'est une bio, je crois.
Et là, Fidel Castro n'a plus d'intestin ni anus. Et c'est son frère qui est sur le dessin de Charb et qui fait on les a éliminés, ils travaillaient pour les États-Unis. Et en dessous, Castro n'a plus de trou du cul. Ah si, il reste son frère. Et la dernière, je vous jure que c'est la dernière, ce sont deux oiseaux charmants. Et je l'ai vu tout à l'heure en venant vous voir. Il y avait deux pigeons. Il y avait un pigeon mâle qui faisait le con, qui se bavanait, qui bougeait les fesses et tout. Il roucoulait et puis la pigeonne s'en allait. Et là, c'est les deux, ils sont là. Et la douceur de l'hiver déboussole les animaux. Il y a le mâle qui fait « C'est le printemps, on se reproduit ?» Et l'autre « Non, mais tu me pas pour une conne, hein ?» Tu lis ton agenda. Voilà, c'est la fin.
Elle était courte, mais efficace, oui. Alors, je crois que la suite va vous plaire, hein, en éternel garnement que vous êtes, mon cher José. De la poésie scato, de la poésie végétale, sauf que c'est la femme qui parle des toilettes et c'est l'homme qui parle des fleurs. Sabine Bourget, experte des water, pour son grand livre du petit coin, et un essayiste botaniste qui, je crois, quand même, est très habitué au trône solitaire. Philippe Solers, pour le grand roman de l'érotisme floral. Il paraît que vous imitez très bien Chirac.
Écoutez, si vous me cherchez, vous allez me trouver, Garcia.
Il paraît qu'il va se représenter.
Comment ? C'est inoxydable. C'est inoxydable.
Son secrétariat m'a téléphoné.
José, oui, on en reparle après. Ça va dérouiller. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in the big town, but I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby. King of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour.
j'aime ton ouvrage. Parfois j'aimerais mourir, on y pleure mes affaires. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, et je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour.
J'y habite.
Robbie Williams, je ne t'aime plus dans Inoxydable. Alors avant de disserter avec José Arthur, moi j'ai une toute petite question et Philippe Solers. J'ai perdu votre nom. Sabine Bourget, dites-moi, en tant qu'experte, journaliste d'investigation des Water, est-ce que vous êtes allée faire un petit tour au 7e?
Je n'ai pas eu le temps.
Bah alors,
mais je compte y aller après pour une prochaine réédition.
Voilà, toilette
de enquête qualité.
De la direction et de la rédaction, parce que en quoi ça pourrait peut-être vous renseigner sur l'état d'Inter
Ah bah oui, c'est toujours extrêmement révélateur et amusant.
Le cabinet de direction d'ailleurs, c'est ça. C'est une émission qui va porter bonheur.
Prions.
Puisque on va parler de ça pendant une heure et demie, parce que en principe, on devait faire ça avec vous qu'une demi-heure, mais connaissant Philippe Solers, qui connaît les poèmes de Jean Genet, qui connaît les poèmes de Rimbaud, où il y a des le cul, c'est un œillet violet. Enfin, il y a des rapports permanents.
C'est un sonnet.
Voilà, absolument avec sa culture totale, on est sûr de parler de là-dedans. On versait pas le.
Je vais essayer. Oui, je vais essayer.
Bon, comment vous cette idée vous est venue, puisque quand même vous êtes vice-présidente du syndicat national des antiquaires, vous êtes, elle l'a dit, expert en monnaie, donc pourquoi un jour vous avez eu envie, et c'est drôle, et puis c'est documenté, c'est chez Auray, et ça s'appelle Le Grand Livre du Petit Coin. C'est une commande, c'est une envie, si
j'ose
dire.
Oui, c'est Sophie Auray, en fait, mon éditeur avec qui j'ai fait mes deux derniers livres, qui m'en a parlé. Au début, j'ai hésité un poil. Mais pas très longtemps. Ouais, après, j'ai trouvé que c'était finalement...
Faites attention à ce que vous dites.
Non, écoutez,
mais non, mais vous savez, chez moi,
allez-y.
C'est sans mauvaise intention. Non,
absolument.
Et du coup, j'ai trouvé que c'était particulièrement amusant parce que c'est quand même un sujet un peu tabou. Et c'est toujours plus amusant d'aller explorer des choses.
Puis ça marche bien, vous avez du pot.
Oui, on peut dire que du pot. Je n'ai pas tourné autour du pot et j'ai mis du pot avec ça, c'est vrai.
Alors, sérieusement, il y a des choses très importantes parce que c'est documenté, c'est provocateur, mais on apprend tout de même qu'il y a 2,5 milliards d'humains qui n'ont pas de toilettes.
Oui, ça c'est assez... Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu... Enfin, sociologique serait un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est quand même l'état d'une civilisation.
Ils vont dans la feuillée.
Ben, ils vont malheureusement dans la feuillée, sans doute dans le meilleur des cas. Évidemment, bon, ça génère tout un tas de trucs épouvantables, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais c'était... il y a quand même un aspect plus sociologique que scato dans le livre, quand même. Alors, je ne veux pas vous décevoir, mais c'est plus socio que scato.
Ah oui, et puis il y a un côté politique, par exemple, sur les chiottes à la turque. Parce qu'il y a le génocide qu'ils ne veulent pas reconnaître, et donc on ne veut pas les entrer tant qu'ils auront des chiottes comme ça aussi.
Hein, c'est certainement.
Tout même...
Mais j'ai pu visiter aussi des tas de, enfin des institutions politiques, même les toilettes de l'Élysée. J'ai pas encore fait France Inter, mais je vais les faire. Mais oui.
C'est frustrant. Il y en a combien de toilettes?
Écoutez, moi, je n'ai eu accès qu'à des toilettes. Enfin, j'en ai visité seulement une. Mais je dois dire, c'était très bien. C'était celle qui était sur la cour carrée.
Ah oui.
Et j'ai fait une espèce d'enquête.
Mais il y a un produit d'ailleurs aussi.
Oui, il y a le déodorant Parfum de France.
Ah oui, absolument.
Et ça, c'était il y a 2 ans. Bon, j'ai pas eu l'occasion de revisiter, disons.
Ah oui. Alors, vous êtes entrée à l'Élysée en disant je voudrais voir les chiens.
Ah non, j'ai pas osé. Non, c'était grâce justement à la vice-présidence du syndicat des antiquaires.
Ah oui.
Comme le syndicat, une partie du conseil avait été invitée lors d'un don qu'on avait fait. En fait, j'ai demandé, je me suis dit, c'est une occasion unique, moi je ne vais pas y retourner. Donc j'ai dit à l'huissier juste avant, est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Il a dû dire, cette pauvre femme est toute émue, elle va nous faire un malaise. Donc on m'a indiqué les toilettes et j'ai eu 10 minutes pour tout regarder.
Est-ce que vous savez que quand la reine d'Angleterre va quelque part, d'abord elle est chez elle par définition, quand elle est dans un lieu, c'est elle qui reçoit. Bon. Mais vous savez, la première chose qu'on dit à sa première dame de compagnie, là où sont les toilettes, pour qu'elle n'ait jamais à le demander. C'est une belle idée, c'est beau. Oui. C'est
Sabine Bourget, d'où vient cette manie culturelle ou historique de laisser son empreinte dans les toilettes, de taguer un petit mot?
Moi, je pense que beaucoup de gens ont envie de s'exprimer. Puis c'est un lieu, finalement, où vous êtes. Mais c'est pour beaucoup de gens. Ils ne vont pas avoir tellement d'autres occasions d'écrire quelque chose. Là, vous êtes quand même en tête-à-tête avec vous-même. C'est quand même le lieu de tas de fantaisies, tas de choses.
Dans les toilettes d'hommes, pas dans les toilettes de femmes. Il n'y a jamais rien d'écrit.
Hein, c'est les toilettes voir.
De femmes. Bah, écoutez,
c'est les hommes qui rentrent dans les toilettes de femmes pour écrire. Ouais,
oui, vous croyez.
Mais, d'ailleurs, à propos de ça, c'est bien amené parce qu'il y a un livre dont je voulais parler, mais c'est l'idéal. Il y a un livre qui est sorti, le premier livre spécialement conçu pour lire dans les toilettes. Alors, c'est des jeux, il y a Sudoku, entre autres, il y a les horoscopes. Et il y a le langage des fleurs, ça va plaire à notre ami Philippe Solers. Mais c'est vrai que dans ce livre, c'est l'endroit où on a le temps lire. Moi, je connais plein de comédiens très célèbres qui commencent à apprendre leur rôle assis sur les toilettes.
C'est un lieu intime, on est tranquille. Normalement, on est tranquille. On a un moment avec soi, on est tranquille.
C'est le seul endroit, d'ailleurs, on dit qu'il y a deux endroits quand il faut y aller, c'est le cimetière et les toilettes.
Hein, oui, c'est un heureux résumé.
On peut pas, alors,
c'est
on ne
tout
peut
à
pas
fait ça.
C'est ce que dit Marcel Proust dans un passage fameux de La Recherche du Temps Perdu, où il parle de cet endroit, n'est-ce pas, qui sentait l'iris, et où il pouvait fermer à clé et enfin se trouver dans un lieu propice à la lecture et à la volupté.
Ah oui, d'accord.
Tout de suite, ça élève le débat. Hein,
oui. D'ailleurs,
il faut de temps en temps.
Oui,
d'ailleurs, on ne dit pas des lieux propices, on dit des WC. Vous voyez, il faut laisser le temps.
Il faut laisser le temps.
Non, mais
il
faut laisser le temps. Il faut méditer.
Oui, c'est fait.
Bon.
Oui,
voilà. Vous savez ce que disait Herriot, je crois qu'il disait la politique, c'est comme les tripes, il faut que ça sente la merde, mais pas trop.
Oui, c'est une idée de radical socialiste, mais qui est peu révolutionnaire.
C'est ça. Il y a plein de choses. Et puis, si on veut être profond, et c'est le cas de le dire, il y a une époque, faut avoir mon âge pour ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande plaisanterie dramatique et tragique avec le nombre de gens qui sont restés, mais la cuvette de Diète Benfou sentait la merde. C'était vrai. C'est ce qui avait été un grand titre de journaux. Ça. Mmh. La cuvette de Diète Benfou, c'est vraiment la merde. Un journal de... On ne va pas dire de quel bord en ce moment.
Alors, quand même, je voudrais signaler aux auditeurs, et grâce à vous, qu'il faut lire un livre que je publie ces temps-ci, pas de moi, mais d'un auteur admirable, qui s'appelle Daniel Accursi, qui est vraiment un spécialiste d'Alfred Jarry et de la pataphysique de choc, et qui rappelle, et qui vous apprend que, quand même, la grande, grande pensée que nous devrions méditer sans arrêt, c'est quand Ubu dit merde. Mais attention, ce R change tout.
C'est absolument. C'est le bâton à merde, et il le répète sans arrêt, c'est sublime. Il y a des gens, les grands...
Et la pompe à finance, PHY.
Et puisqu'on parle de gens qui sont merveilleusement drôles, il y a Alphonse Allais qui dit, il y a un petit poème que j'adore, c'est « Ayant pris le matin une purgation forte, le jeune Alphonse, à chaque instant, courait, se levait, s'asseyait, ouvrait, fermait des portes, Alphonse Allais. » Ça, c'est très mignon. Et puis, l'historien Le Nôtre possédait le pot de chambre de Marie-Antoinette. Il l'a payé 100 francs, disait-on à Allais. Plein. C'est joli. Ce sont des grands mots.
Et en même temps, Sabine Bourget, quand on parle de cabinet, il y a aussi le côté lieu de manigance, les cabinets noirs des politiques aussi.
Oui, parce qu'en fait, les toilettes, ça sert à des tas de choses. On peut même réfléchir dans les toilettes, on peut répéter.
Méditer dans les toilettes. Et même comme Luther, y avoir ses plus profondes pensées, il l'a dit.
C'est lacanien, les toilettes.
De toute façon, ça, c'est le puritanisme du 19e. Vous citez une lettre de Mozart, j'ai eu juste le temps de la voir apparaître.
Une lettre de la Palatine aussi, qui est
18e, tout ça. Les gens étaient très, très à l'aise avec les lieux des anges, etc. Donc, tout ça.
Mais les références artististiques, vous qui adorez la peinture, les Bruegel, on voit les dames à
poupées. Donc le 19e,
les gens faisaient ça en rond,
et puis c'est tout.
Parce que vous avez plein de références artistiques dans le livre, enfin, surtout. Je ne sais pas, quand on voit dans Rembrandt le Bon Samaritain, c'est un premier plan, c'est un chien qui est en train de faire.
Vous avez La Pisseuse, admirable tableau, devant lequel d'ailleurs j'ai cru remarquer que les Japonais passent rapidement.
Alors les tabous, le basculement, il déboule quand alors?
Ben les tabous, en fait, je pense que c'est toujours tabou. Déjà, quand j'ai dit je vais faire un livre sur les toilettes, quand on me demandait ce que je faisais, les gens commençaient à rigoler.
Ouais.
Même mon entourage proche,
fatalement. De gêne.
Oui, on rit.
Oui, ou navré pour moi, je sais
c'est
pas.
La pudeur, bon, le rire de la pudeur.
Sans
le rire
doute, de l'angoisse. C'est sûr. Et en fait, bon, c'est un tabou pour des tas de choses, mais je crois que l'évolution, c'est que maintenant, il y a quand même une atteinte à l'intimité à cause de la technique de plus en plus moderne des toilettes. Et là, on disait, bon, on est seul avec soi, on peut faire des tas de choses. Avec des toilettes qui, maintenant, vont vous encourager, du genre, tout va aller bien, ne vous énervez pas, qui vont analyser
ce que... Des toilettes qui parlent.
Ah, mais bien sûr, qui parlent, qui chauffent.
Est-ce que vous avez vu la publicité pour les choses japonaises?
Voilà, bah, c'est
qui chantent à hurissant.
Mais c'est effrayant. Certaines font des analyses médicales.
Bien sûr.
Donc, si ça ne convient pas, vous allez recevoir des fibres. Vous allez recevoir des trucs.
Et à quand les caméras sous surveillance?
Exactement, bientôt, vous aurez... Si vous avez trop bu, vous aurez les flics à la sortie des toilettes. toilettes.
Donc, dernier endroit de liberté. D'autres choses.
Vous avez donc, moi, je trouve ça alarmant, personnellement.
Vous avez plein de références alors, extraordinaires. Il y a un
vous
dessin.
Vous devriez vous soigner.
Vous avez mis un dessin de Philippe Gueluc, là, qui est formidable. C'est, il y a pensoir à la porte. Alors, il frappe son personnage merveilleux qu'on connaît. Toc, toc. Et il y a le penseur de Rodin qui fait occuper. Ça, c'est très joli. Il y a une phrase de Beckett, un poème de Victor Hugo que je ne peux pas lire parce que, vous savez, je me contrôle énormément
au micro,
vous avez remarqué.
Je
me fais d'une autocensure permanente. Bon. Donc, je ne peux pas. Mais là, je dis que quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. C'est Beckett. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas la moitié d'un imbécile. Il y a plein de choses. Et puis là, il y a un truc qui est très joli.
J'ai vécu.
Oui, absolument. Alors, le conseil, c'est une annonce. Le conseil accepte de faire vidanger la fosse des anciens WC de l'école qui pourrait, après aménagement, être utilisée comme cave au profit de l'instituteur. Ça, c'est tout même des choses. Vous avez trouvé ça. Il y a des photos charmantes, en plus,
oui,
avec des bébés qui font ça.
Les gens étaient beaucoup moins puritains que maintenant. Si voilà. On prenait un siècle, on parlait de tas de trucs beaucoup plus naturellement. Plus cette espèce de puritanisme pesant.
Est-ce que vous vous êtes censuré vous-même un peu ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas même une ou deux choses vous dit, ou votre éditeur, ou un avocat de votre éditeur, a dû vous dire ça vaut peut-être mieux pas le mettre?
Non, bon, disons, je n'ai pas un tempérament très scato. Je crois qu'il y a, enfin, scato, le pur scato, il y a une question.
Non, d'ailleurs, quand on vous voit, on vous voit mal de tout de même parlant de
moi,
ça.
Je crois que c'est ça.
Vous ne dites
ça
pas
fait...
du mal de l'église catholique. Hein. Attention.
Scatholique. Bon.
Donc bon, naturellement, j'étais pas très attirée par le côté purement pipi caca, mais pour le reste, non. Puis oui. Je dirais, j'ose pas dire, mais c'est venu assez naturellement comme livre.
Ah bah oui, c'est assez.
Attention, tendez voilà. La perche.
Voilà, ça, c'est la mauvaise influence.
Il y a un endroit très, vous l'avez vu, le Louise Buñuel là où les gens se cachent et sont à table tous en train de déféquer, et puis c'est François Mestre qui va manger dans un endroit en fermant le placard et fait occuper pendant qu'il mange. C'est vrai que c'est une convention quand on voit quelqu'un ouvrir la bouche et mâcher beaucoup, c'est pas très ragoûtant non plus. Hein.
De façon plus noire, il y a le film de Pasolini qui s'appelle Salaud, hein, c'est sûr. Qui vous dit où il y a ce genre de choses. Ça peut aller à quelque chose de terrible. Mais vous savez, moi, j'ai écrit mon premier texte de jeunesse, chère madame, je ne sais pas, je vous l'enverrai. Ça s'appelle Introduction au lieu des anges, justement. Et c'est une méditation très, très, très sensuelle sur ce qu'on peut éprouver là, avec un exergue que j'aime beaucoup, c'est de Sainte Thérèse d'Avila. C'est « Faites ce qui est en vous ».
Ah ben ça, c'est joli, oui. Elle l'a pas fait exprès,
c'est
joli.
Très, très beau texte.
Moi, je voudrais vous dire deux petits mots. C'est Clémenceau à qui on disait, vous, le père La Victoire, comment vous pouvez avoir à côté de vous Georges Mandel? Et il disait, il est très commode parce que quand je pète, c'est lui qui pue. C'est un mot historique, mais c'est un mot historique, ça, c'est les enfants. C'est pas moi, c'est la lettre. Et alors, c'est très
abandon,
la cabine.
Abandon.
Voilà, y a, dans la cabine, ils sont là, en train de, enfin, une.
Véronique,
elle ne sait plus où elle en est, elle a apoplexie. Non, Sacha Guitry est dans un restaurant, on va finir sur reggae, ça. Il est dans un restaurant en habit, en costume, et il y a un mec bourré comme un canon qui le prend pour le maître d'hôtel, qui fait « Où sont les chiottes ?» Et alors les autres maîtres d'hôtel se précipitent, le maître. Il dit « Non, non, c'est pas... » Il dit au type « Parfaitement, monsieur, voyez le couloir qui est là, vous le prenez, il y a une porte, vous... non, il y a une autre porte où il y a marqué « Gentleman ». Vous entrez quand même. » C'est joli. Alors là, Véronique, elle est contente parce que...
C'est ça, plus frais quand même.
Elle va pouvoir me placer à France Culture.
Et Véronique, elle me parle dans le casque pour annoncer les dessous du classique avec un peu de musique. Hein,
oui,
sur l'Odéon, bonjour. Jingle avant.
Bonjour, oui.
Oh, bon anniversaire.
Et oui, merci,
bon
merci.
Anniversaire, c'est aujourd'hui.
Jingle, oui, messieurs.
Aujourd'hui, Hector Berlioz, bien âgé, qui se souvient de son amour d'enfance, Estelle Fornier. Elle avait des yeux verts, grands et fiers, une taille élevée et élégante, des pieds d'andalouse ou de parisienne, des brodequins roses, mais oui, on ferait plus ça, évidemment. Ils ont dansé ensemble à une fête de village, elle avait 18 ans, lui 12. Elle s'est moquée gentiment de ce petit garçon, follement amoureux. Il ne l'oubliera jamais, malgré ses deux mariages, assez déplorables, il faut bien le dire. Plus de 50 ans après, Berlioz pense toujours à elle, et un ami raconte... Il était silencieux, il marchait courbé, de temps en temps sortait de sa poitrine un de ses soupirs que je connaissais si bien. Je lui posais la même question, toujours la même, l'éternelle question. Qu'y a-t-il encore? Quelques lignes d'elle que j'ai reçues ce matin. Vous vous souvenez d'Estelle? Estelle? Qui? La jeune fille de Mélan près de Grenoble. Celle que vous avez aimée à 12 ans? Oui, oui, je l'ai revu il y a quelque temps, et en la revoyant, oh, mon ami, comme Virgile a raison, quel cri du cœur que ce vers. Je reconnais les traces de mon ancienne flamme. Votre ancienne flamme, comment ? Oh, je sais, c'est absurde, c'est ridicule, je le sais bien, mais qu'importe, la vérité est qu'à sa vue, toute mon enfance, toute ma jeunesse me sont remontées au cœur. Cette secousse électrique que j'ai ressentie jadis m'a encore traversé le cœur entier comme il y a plus de 50 ans. Mais quel âge a-t-elle donc ? 6 ans de plus que moi, j'en ai plus de 60. C'est donc une merveille, une beauté encore. Je n'en sais rien, je ne crois pas, mais que font sa figure et son âge ? Il n'y a rien de réel dans ce monde, mon cher ami, que ce qui se passe là, dans ce petit coin de l'être humain qu'on appelle le cœur. Eh bien, sachez que moi, vieux, veuf, presque seul dans ce monde, j'ai concentré ma vie tout entière dans ce petit village de Mélan où elle vivait. Je ne supporte l'existence qu'en me disant « Cet automne, j'irai passer un mois auprès d'elle ». Je mourrais dans cet enfer de Paris si elle ne m'avait pas permis de lui écrire et si de temps en temps, il ne m'arrivait quelques lettres d'elle. Mais vous lui avez dit que vous l'aimiez ? Oui, oui. Et qu'a-t-elle répondu ? Elle est restée stupéfaite, un peu effrayée d'abord. Je lui faisais l'effet d'un fou, mais peu à peu, j'ai fini par la toucher. Je demande si peu. Mon pauvre amour a besoin de si peu de choses pour subsister. M'asseoir près d'elle, la regarder filer, car elle file. Ramasser ses lunettes, car elle porte des lunettes maintenant. Entendre le son de sa voix, lui dire quelques passages de Shakespeare, la consulter sur ce qui me touche, m'entendre gronder par elle. Ah, mon ami, les premières amours, elles ont une force que rien n'égale. D'ailleurs, bien des passages de mes anciens ouvrages, comme la Symphonie Fantastique, me furent dictés par le souvenir de l'étoile, de la douce étoile bleue qui illumina le matin de ma vie. Moi, j'ose à peine rappeler devant Philippe Solers et Sabine Bourget qu'en latin, l'étoile, c'est Stella, ce qui a donné le joli prénom d'Estelle. Hector Berlioz, un bal de la Symphonie Fantastique par l'Orchestre de Boston, dirigé par le grand Charles Munch.
Merci Frédéric Lodéon et nous vous retrouvons donc dimanche pour les grands concerts de Radio France et du lundi au jeudi comme d'habitude à 21h pour votre carrefour, le carrefour de l'Odéon.
Bah oui, tout simplement,
avec facile. Un gros O. Et à suivre après les infos, toujours en compagnie bien sûr de Sabine Bourget et Philippe Solers. Nous allons enfin parler de cette grâce qui vous a frappé, la grâce de l'érotisme floral. Voilà, et puis il y aura également la chronique cinéma de Laurent Delmas à suivre dans Inoxydable avec José Arthur.
Attention pub.
Alors, on le connaissait mozartien, casanovien, sadien, beethovenien, voltairien, vénitien, lacanien. Le voici désormais botaniste, revisitant ses chers classiques sous l'angle de la libido du pollen. Philippe Soler, c'est son grand roman de l'érotisme floral. Oui, je sais, José Arthur trépine déjà. Calmez-vous, José. Et dans quelques minutes, le toujours grand, même assis, Laurent Delmas, l'homme en noir, pour sa chronique ciné. Mais pour l'instant, c'est Hubert Félix Stéphane sur France Inter, et toujours en compagnie, bien sûr, de Sabine Bourget.
Caméra.
Moteur.
Il n'y a pas de loi, Bouvier. Il n'y a qu'une loi. C'est de réfréner ses instincts quand ils sont mauvais.
Vos paroles sont bien belles, mais celles de la nature causent souvent plus haut, coûte que coûte. Allez, j'en goûte.
Mais nous en avons tous des tentations. Nous y résistons. Sinon, que deviendrait la société?
Mais je me fous de votre société. Moi, je relève de Dieu. J'ai fait œuvre de justice. C'est la France qui est coupable. Il y a trop d'inégalités, de misère. Je suis ou un grand sauveur, ou un grand martyr fin de siècle, ou un grand élu du ciel.
Et Philippe Soler qui demande, c'est Sarkozy ? Non, hein, Laurent.
Non, c'est Michel Galabru et Philippe Noiret, le regretté Philippe Noiret, dans Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. C'est José qui m'avait demandé cet extrait, je le comprends bien. Ce film avait obtenu en 1976.
Mais dites-le en parlant comme Bertrand Tavernier.
Ah non, pas si. Toutes les semaines. Non, je vais pas vous faire Bertrand toutes les semaines quand même. C'est un film formidable, mais je vais pas vous le faire toutes les semaines, José. Faut pas me pousser. Donc, c'est un film qui a obtenu 3 Césars en 1976. Oh, mais quel transition toute trouvée, puisque depuis ce matin, nous savons quels sont les nominés, on va dire. Hein, ah oui. au César, c'est un néologisme horrible. Voilà, alors on sait que le trio a priori gagnant pour les films, c'est Ne le dis à personne, Indigène et Mon amour, mon chéri, Lady Chatterley. Voilà, ça c'est les trois films qui arrivent en tête des nominations. Il y a une bizarrerie, c'est que Cécile de France est nommée deux fois. De France deux fois dans la même catégorie. Ça, c'est un peu curieux. Ça lui donne deux fois plus de chances d'être élue in fine. C'est bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Il y a des règles.
Indigène,
vous avez raison de le noter, José, est effectivement aux Oscars. Voilà. Donc, vous savez, c'est le film qui oriente la politique du gouvernement. Voilà. Maintenant, il y a des nouveaux films comme ça. On fait un film pour orienter la politique du gouvernement. Bon, bref, passons. Autre récompense décernée cette fois cette semaine, sont les étoiles de la presse, autrement dit le choix des journalistes de cinéma, eh bien eux aussi, ils n'ont pas réussi à trancher entre Indigène, mais oui, et Lady Chatterley, bingo, allez, ça repart, le sublime film de Pascal Ferrand, à nouveau nommé, en face de Indigène, le film qui, rappelons-le, fait la politique du gouvernement. Bon, alors bref, cette semaine, il est sorti...
Il n'y a pas de coupure dans le film.
Il y a deux coupures pour...
On ne fait pas pour être présenté aux Oscars.
Non, on ne coupe rien, vous voulez dire parler de la main de Jamel. D'accord, merci, celle-là, elle est faite, on en fera une autre la fois prochaine. 12 films sortent en salle cette semaine, rien de très exceptionnel, il faut bien l'avouer. Une mention, cependant, pas mal, peut mieux faire, pour la comédie germano-pratine de Catherine Corsini, avec un duo Karine Viard et Eric Caravaca. C'est un film spécialement fait pour Philippe Solers, puisque ça parle du Saint-Germain-des-Prés et du petit monde de l'édition. Il reconnaîtra des amis et des ennemis s'il va le voir. Ceci dit, il est moins réussi, je trouve, que le film très récent de Pascal Bonitzer, qui avait exactement ou pas loin le même sujet. La mention spéciale de la semaine, ça, c'est pour un film allemand de Matthias Luthart, qui s'appelle Ping Pong. Entièrement centré sur les liens du sang et de la famille, ce premier film s'avère un bel exercice de style, façon certes sortie d'école, mais on attend l'autre film, le second film de ce metteur en scène avec impatience. Le plus important dans toute cette affaire, c'est que ça dénote manifestement un renouveau du cinéma allemand. Vous savez, après Goodbye Lenin, La Chute, Sophie Scholl, Requiem, L'Imposteur, ce cinéma qui était mort, qui n'existait plus, eh bien manifestement, renaît de ses cendres, et tant mieux, et le meilleur est à venir, le joyau à venir, c'est La Vie des Autres, qui sera en salle le 31 janvier et dont je vous rebattrai les oreilles dès la semaine prochaine, vous pouvez compter sur moi. Autre sortie sur les écrans cette semaine, la 78e aventure de votre ami, José, oui, votre ami Rocky, et oui, alias Sylvester Stallone, le boxeur qui n'arrive pas à dételer, hélas pour nous. Passons sur cette suite inutile et signalons l'apparition d'un livre fort intéressant, lui où il est question entre autres des Rocky, puisque c'est un livre consacré au cinéma américain sous Reagan. Soit une vingtaine de contributions éclairantes, évidemment, sur le sujet, avec notamment celle consacrée au film ruraux dont j'aime beaucoup le titre, et je vous le donne, le retour à l'écran du populisme pastoral, deux points, les fermières héroïques foulent à nouveau les raisins de la colère. Joli titre. Ah oui, bon. Publié sous la direction de Frédéric Gimelot-Mesplon, c'est incontestablement à lire, et c'est publié par les éditions Nouveau Monde. Bon, ben on va terminer en musique, comme d'habitude, avec un CD qui vient de sortir, qui regroupe deux BO tout à fait dignes d'intérêt, deux BO signées Michel Magne, toutes les deux pour Henri Verneuil. L'une, c'est pour Un singe en hiver, et l'autre, et c'est celle dont nous écoutons un extrait en ce moment, c'est pour le très 60s Mélodie en sous-sol.
Oui, Philippe Solers, vous disiez Si, mais allez-y.
Non, ça c'est hors sujet.
Allez-y, mais si, ça nous intéresse.
Tout à fait hors sujet.
Non, moi j'ai failli marcher dans la pub tout à l'heure, lui il a failli marcher sur vous.
Bon. Dans la musique. Merci au fait, Laurent Delmas.
Américain dont vous venez de parler pourrait être au fond les films fermiers, les fermières, là, voilà.
Oui.
Le Nouveau Monde.
Oui, oui.
Ça pourrait être un film soviétique, enfin, des années.
Il y a de la cointance.
Ah, c'est ça.
Ah, puis c'est une façon de parler de votre jeunesse,
de toute façon. Oh oui, ma jeunesse en Alaska.
Oui, parce que vous avez quand même été quelqu'un maoïste. Il faut dire qu'il y avait les sans-fleurs déjà.
Attention, oui, puis maoïste, ça n'a rien à voir avec soviétique, au contraire. Qui a gagné le match?
Oui.
la Chine.
Et puis vous savez une chose, en plus, c'est que tout le monde le sait, c'est que si Mao avait envahi la France, les premiers qui auraient été fusillés, c'était les maoïstes de France.
Non, j'avais un passeport spécial.
Oui. Non, mais alors, Claude Roy m'avait dit un jour une chose que j'avais adorée, que je répète de temps en temps, c'est « Nous avions tort, mais à l'époque, nous avions raison d'avoir tort. » Ce qui est une phrase fabuleuse, mais qui fait que vous, j'aurais...
Claude Roy s'est repenti, lui.
Non, lui. Non mais parce que c'est pas vrai qu'à une époque, quand vous étiez jeune... Où on était parachutiste ou on était maoïste à un moment.
Eh bien, choisissez, c'est une question de goût.
Non, mais c'est vrai ou pas, comme analyse
C'est un peu brutal comme opposition, mais en même temps, les parachutistes étaient vieux déjà, et les maoïstes étaient jeunes.
Mais vous avez été quand même, avec beaucoup d'honnêteté, un admirateur de ces gens échaudés. C'est-à-dire que vous avez un jour compris... que ce n'était pas exactement des gens superbes.
Mais tout ça est tellement en berlifique côté.
C'est là que
le maoïsme, entre guillemets, français, n'a jamais rien dû avoir avec les crimes abominables qui se sont commis en Chine. Tout ça est bien connu. C'était une façon, dans la mouvance de ce qu'on a appelé les événements, vous savez, préhistoriques, il y a fort longtemps, c'était une façon de faire sauter le verrou. Et le verrou, il était quoi? Il était gaulo-communiste. Il était Golo Moscou. Il était même Vichy Moscou. Alors si vous aviez vraiment dans votre jeunesse ou votre enfance souffert atrocement de cette pesanteur abominable,
oui,
qu'aura été la collaboration intime entre ces deux systèmes. Voilà.
Vous preniez la
première voiture venue pour faire essayer de faire tout sauter. Voilà.
Mais je voudrais quand même vous dire
c'est
que
pour ça que je ne regrette rien.
Vous êtes
mon dernier souffle
avec une petite cuillère en argent quand même dans la bouche et même en vermeil quand même, Philippe Soler.
Plusieurs, c'est qui m'a permis justement de varier les sujets.
Absolument. Alors vous avez été élevé chez les jésuites.
Non, pas seulement.
On sort curé ou on sort mécréant.
Je suis passé par les jésuites, mais ils m'ont renvoyé.
Vous êtes quoi alors aujourd'hui
dans
ce domaine-là?
Rien, j'écris.
Agnostique
Agnostique.
Non, je ne sais pas, sincèrement.
L'agnosticisme est fade. Ah, vous parlez sur le plan métaphysique, religieux.
Voilà.
Spirituel, comme dirait Ségolène Royal.
Sur le plan de la spiritualité.
Oh, allez, c'est facile. Oui.
Oh, bah,
lâchez-la.
Oui,
vous êtes schizophrène, donc vous avez le droit de vous exprimer là, à ce micro. On ne reçoit que des schizophrènes.
J'en ai fait réussi là où le schizophrène échoue.
Absolument. Alors, donc, vous ne voulez pas répondre, finalement. Vous savez. Donc, vous avez eu des admirations.
On n'est pas à Beauvau, Sarko.
Mais vous avez eu des admirations quand même étonnantes. De qualité. Roland Barthes, Lacan, Althusser.
Oui, ça a été des amis.
Althusser, vous vous souvenez, quand il est mort, moi j'étais engueulé, mais j'avais dit Althusser le kiki parce qu'il était mort en étranglant sa femme, je ne sais pas quoi.
Non, il est mort après. Oui.
Il est mort en 90.
Ouais.
Mais il était.
C'était quelqu'un de tout à fait.
Il avait écrit un livre sublime sur Marx et sur Lénine, entre autres. Mais vous étiez un de ses disciples ou un admirateur ?
Pas du tout. J'étais un ami latéral. J'ai essayé de le convaincre à l'époque d'abandonner le régime d'électrochoc qui se faisait donner, etc. Nous avons eu des conversations extrêmement profondes sur la maladie qui le ravageait et qui l'a conduit à cet acte épouvantable. Non, c'est, vous savez, j'ai beaucoup connu de gens extrêmement intelligents, érudits,
ah oui,
etc. Et dont j'ai pu apprécier aussi, en même temps, comme chez moi d'ailleurs, et comme chez vous probablement aussi, la folie.
Mais ils vous ont apprécié eux aussi, c'est ça qui est formidable. C'est que...
ils m'ont trouvé probablement aussi fou qu'eux, mais dans un
non,
autre
style.
Non, mais
le jeune turc que vous avez été, sérieusement, là, parce que vous êtes...
Turc, très... non, excusez-moi, mais pas tout de suite.
Vous êtes quand même un mec spécial, parce que dans la vie, vous n'êtes pas différent à vous-même du tout. Vous aimez...
Pourquoi le serais-je, alors
non,
que tant d'auteurs...
Absolument, vous aimez, mais vous êtes un solitaire.
Mon compatriote Montaigne dit, on me reproche, je ne parlais que de moi, mais personne... Oui, c'est ça, oui. Alors, déjà, Montaigne.
Le solitaire cathodique, vous êtes un petit peu. Mais c'est vrai que Malraux et Aragon, dès le début, on célébrait en vous quelqu'un d'intéressant, d'important. Ouais. Donc, c'est dans la vie, c'est formidable. Votre style, vous l'avez donné.
À mon avis, ils avaient plutôt du jugement. Ils étaient du bâtiment. Ils s'intéressaient un petit peu. Voilà, bon, c'était mieux que des critiques habituelles.
Voilà. Vous avez eu des
les journalistes passent, les écrivains restent.
Vous avez eu des diplômes ou pas? Universitaire,
c'est trop lourd.
Universitaire ou pas?
Mais on n'est pas Beauvau, Sarko.
Mais si, alors, allez-y. Vous êtes arrivé par le rang, comme on dit, ou par les examens?
Pas du tout par le rang, pas du tout par le mérite, cher José Arthur. Je ne suis pas un animal d'élevage.
Oui.
je me suis élevé tout seul. I am a self-made man, you know. C'est très mal reçu. C'est très mal reçu dans ce pays où vous savez que les institutions ont une telle importance. La révérence par rapport au diplôme, comme vous venez de dire, aux grandes écoles, etc. C'est tellement...
Les mais Français le style, crèvent le
de
style.
Respect dans les institutions. Et puis, de temps en temps, ils explosent. Moi, j'attends qu'ils réexplosent de nouveau parce que ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu.
Vous êtes un anarchiste.
Vous avez du style.
Moi,
je voudrais arriver à la placer, celle-là.
Oh, bah, attendez.
Vous avez du style. Est-ce que c'est inné chez
Garcia
vous ou pas?
Garcia dit que je suis anarchiste.
Garcia, alors, pense. Bon, oh, ces hommes.
Bon, on n'est pas encore à l'Élysée, c'est
qu'il a une femme en face de lui sur l'air, c'est pas moyen de parler.
Oui, qu'est-ce que vous disiez là? On est perdu.
Mais non, mais je parlais d'une chose essentielle. On sait qu'il aime les bonnes femmes, on sait qu'il aime les femmes.
Les bonnes femmes, quel mot.
Les jolies femmes, la gente féminine. Il parle avec des fleurs.
Bonne, c'est gentil. Femme,
non, j'aime les mauvaises femmes.
Les bonnes femmes, en quoi c'est péjoratif?
Ah, parce que
j'ai pas dit les femelles. Non, mais c'est insensé.
Je me suis retenu, comme vous diriez.
Non, bon, enfin, allez. C'est incroyable, quand même. Non, sérieusement, votre style, on vous reconnaît le style. Est-ce qu'il était, ça c'est sérieux, ça donne espoir à des mômes qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut avoir du style sans l'avoir travaillé? C'est inné, ça, ou quoi?
Absolument inné. C'est un don. C'est effrayant. C'est effrayant, mais il ne faut pas le dire, parce que ça, il ne faut pas désespérer.
Faut le dire.
Cet énorme billet en cours qui est devenu ce pays. Donc, c'est un don, une grâce, etc. Vous savez, là, les musiciens. Ils n'ont pas choisi, ça leur vient. Et c'est comme ça. C'est inné. C'est un don de Dieu s'il existait, mais comme Dieu n'existe pas forcément, voilà.
La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas.
Si vous voulez, mais enfin oui. Ça se travaille, ça s'améliore, bien sûr. J'ai fait beaucoup de progrès.
Ah oui?
J'en fais constamment.
Et c'est absolument.
Mais enfin, je suis bien obligé de vous dire qu'en effet, la poésie, franchement, ça tombe ou ça ne. Voilà. On ne devient pas poète.
Oui. Alors vous avez gardé votre.
On a les expériences qu'il faut pour l'être très vite.
Vous avez gardé votre faculté d'indignation et d'admiration, je l'ai placé.
Bah, c'est la même chose.
Et non, c'est ce qui permet de rester jeune, sérieusement. Mais vous êtes quand même quelqu'un, vous changez d'avis avec énormément de sincérité de temps en temps.
Non, parce que je crois que les avis... C'est-à-dire, je n'ai pas de respect pour la société.
Vous faites des volte-face.
Oui, parce que ça me permet d'aller où je suis le plus libre possible. Donc moi, tout ce que je fais, c'est essayer de respirer, de faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas de respect pour le social. Vous savez que Dieu est mort, bien sûr.
Enfin, je l'ai appris récemment.
Vous l'avez appris récemment. Mais que Dieu est devenu... C'est la société qui est Dieu, maintenant. D'où vos questions. Définissez-vous de façon sociale, etc. C'est donc des questions, en réalité, cléricales.
Non, voilà. C'est le tribunal divin.
C'est clérical.
Mais
c'est
bien. Comment vous faites...
Le nouveau clergé est avancé et il est social.
Comment vous faites, Philippe Solers?
Je veux dire... D'ailleurs, Chirac m'appelle pas Solers. Il n'arrive pas à dire Solers, il dit Solers. Ah, écoutez, monsieur Solers, vous exagérez. Oui. Est-ce que vous êtes utile vraiment à quelque chose?
Quand vous rencontrez les gens qui vous aiment,
je vais lui envoyer de votre pays, de la France, des citoyens, et moi-même de la pauvreté que je chéris tendrement.
Répondez-lui en tavernier.
Non. On va arrêter. Bon, je vous fais Mitterrand, alors.
Il y a des gens qui vous détestent.
Bon, mais oui,
quand vous les rencontrez, mais sérieusement, techniquement, quand vous rencontrez des gens qui vraiment écrivent sur vous des horreurs, je ne sais pas, Régis Debray, Rinaldi,
je ne les rencontre pas, justement.
Non, mais Besson, il peut avoir au hasard. Vous vous serrez la main quand même, vous dites bonjour en disant ce sont des ennemis de plume, ou est-ce que pour vous c'est les blessures quand le PC, l'humanité écrit que vous êtes une tête à claque, Philippe Solers? Oui, bon, qu'est-ce que vous pensez de ces gens
et mais qui font la claque, comme on dit au théâtre, n'est-ce pas?
Non, mais on les rencontre de temps en temps.
Ça me fait de la publicité.
Voilà, au théâtre en général, au spectacle, vous pouvez
le rendre bien aussi quand même.
Mais oui, tout ça marche très bien, c'est pas grave.
C'est pas grave du tout.
Non, pas du tout. Ce qui compte, c'est les livres, j'espère qu'on va y arriver.
Alors, le livre, il y a un livre, là, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes venu pour ça uniquement, d'ailleurs?
Ben oui, mais ça tarde.
Ah oui, mais dites donc, à la télé, vous seriez déjà parti. Tandis que là, on va jusqu'à 18h.
C'est pour ça, tranquillement. Scruste.
Faut pas exagérer. Votre livre, il s'appelle Fleurs, et puis il est chez Hermann Littérature.
Voilà.
Et on
voilà.
va, on et va on en parle. Parler. Exactement. Et on va parler de Gérard von Spandau, qui n'a pas pu venir d'ailleurs.
Ça tombe bien, bien prononcé.
Voilà,
après les années Mao de Philippe Solers, merci Sabine Bourget, toute calme.
Enfin bravo,
c'est inoxydable. C'est Gainsbourg aussi.
Que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu veux petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. mort d'une cirrhose, de détesse par osmose, de vent qui buvait mes paroles. La beauté cachée, des laits, se voit sans de lait, de lait. La beauté cachée, des laits, se voit sans de lait, de lait. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, et on n'y peut rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée de lait, se voit sans de lait, la beauté cachée de lait, se voit sans de lait, eh oui.
Heureusement que vous ne les entendez pas, c'est atterrant. Sérieux, entre Philippe Solers et José Arthur, là, c'est un jeu de ping-pong, de concours de citations, de blagues les plus...
Je ne parle jamais pendant un disque.
Non, ça c'est sûr. Et après, vous allez nous la jouer, Philippe Solers, ce poète, floral, les fleurs.
Je voudrais citer quand même cette parole extraordinairement profonde du président Mao Tse-tung. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, je pourrais être intarissable sur le sujet.
Allez-y, on va
et qui me paraît d'actualité sur différents plans, c'est on a beau dormir dans le même lit, on fait des rêves différents.
Ah, des rêves à part même. Je rêve à part.
Maintenant, venons aux choses sérieuses.
L'érotisme
abyssal.
Et nous allons passer au chinois profond. Là.
Non, alors on va parler de votre bouquin quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Mais, j'ai demandé à Sabine Bourgette d'ailleurs comment l'idée lui est venue de faire un livre sur les Gog. Et à vous.
Sur les Gog.
C'est beau.
Défendez-vous, Sabine Bourgette.
Non, mais les Gog, c'est très beau.
Enfin, oui.
Il y a même une pièce sublime qui s'appelle Gog et Magog. Mm-hmm. Bon, non, mais
Héraclite était dans les toilettes et ses admirateurs viennent le voir et sont tout étonnés de le voir là, assis, en train de déféquer. Et alors il leur dit, mais entrez donc, ici aussi, les dieux sont présents.
Absolument.
Mot admirable.
Et les latrines, c'est joli, les latrines.
Oui, bien sûr.
Nous les chasserons jusque dans les latrines. C'est Antoine et Cléopâtre qui dit ça à un moment.
Ou combien de visions peuvent se passer.
Douze partout, là, c'est pas mal. C'est pas
non,
mal.
Alors,
là, vous,
maintenant,
vous tenez, là.
J'ai posé cette question, c'était pour ça. À vous, Philippe Solers, sérieusement. Vous aimez les fleurs, c'est vrai. Vous avez un jardin, on ne dira pas où, moi je sais où c'est. C'est au moment où l'île de Ré est le plus. est le plus mince. La taille de guêpe de l'île de Ré, où il y a des canards, qu'on ne trouve même pas le nom dans le dictionnaire. C'est vous dire si c'est rare.
C'est plein de fleurs.
C'est plein de fleurs. Vous adorez sérieusement les fleurs. Vous avez une culture éblouissante. Vous aimez la peinture. Vous aimez la littérature. Et est-ce que c'est une commande que vous avez eue ou une envie de parler de l'érotisme des fleurs?
Un jour, le grand collectionneur Pierre Bérès, qui a aujourd'hui 93 ans et qui vient d'offrir à la Nation le manuscrit original de la Chartreuse de Parme de Stendhal, avec des ventes qui font que l'argent a coulé d'une façon ahurissante.
C'est la plus belle collection.
C'est un ami depuis longtemps. Un jour, il m'invite à déjeuner. Après, il prend un air pénétré et puis va chercher quelque chose dans une armoire. Il me rapporte des fleurs peintes sur soie. Une splendeur d'un Hollandais que je cite au début.
Gérard
Spandau, qui était d'ailleurs directeur du Jardin des Plantes. Et puis, il les pose comme ça devant moi, sans rien dire. Voilà comment se font les affaires de cœur. Oui. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe de fleurs.
Il fallait
y aller tout à fait normalement. Je veux dire, s'il me les a proposés, c'est peut-être qu'il attendait en effet une réponse
hommage.
Qui est venue sous forme de ce livre, qui est d'ailleurs publié aux éditions Herman, qu'il a longtemps dirigé. L'édition Herman, qui est une des plus vieilles maisons d'édition françaises, vous savez que c'est 1876, avec un catalogue extraordinaire de sciences. hein, sa physique, chimie. Et brusquement, cet éditeur se renouvelle et crée une collection de littérature et dont je suis en somme le premier.
Alors il y a des, voilà, il y a des planches superbes, il y a des citations.
Alors vous
superbes.
Avez la reproduction de ces fleurs admirables qui sont de ce Hollandais
Que vous n'arrivez pas à prononcer.
Van Spendonck, Gérard.
Si vous y arrivez quand même, bon, c'est bien.
qui a eu un élève d'ailleurs très célèbre qui s'appelle Redouté, qui est connu de tout le monde. Alors la rencontre, c'est simplement de faire vivre les fleurs à travers la poésie et la littérature. Et là, je me suis appris beaucoup de choses en relisant intensément un certain nombre d'auteurs. Proust, par exemple, que je citais tout à l'heure, qui alors, non seulement dans sa toilette enfantine, qui sent l'iris et un groseillier aussi qui donne encore une autre odeur, a eu la révélation de ce qu'on appellerait bêtement aujourd'hui la masturbation ou la branlette, si vous voulez. Mais comme c'est Marcel Proust, nous allons parler de volupté. Oui. Ce sera mieux. Et donc voilà. Puis après, vous avez les aubépines. Et puis surtout, cher José Arthur, réfléchissez un peu. Qu'est-ce que c'est que faire Cattleya? Vous rappelez, vous avez dans La Recherche du Temps Perdu, Swann est amoureux d'Odette et il lui arrange un petit peu les fleurs dans son corsage. Ce sont les orchidées et le Cattleya. Vous savez que les orchidées, là, je passais encore l'autre jour, il y a une exposition d'orchidées dans Paris, là, dans le 6e arrondissement. Les orchidées sont très réputées pour avoir une vie sexuelle intense. Ah oui. Voilà, je ne vous apprends rien, j'espère.
Une orchidée, et puis, vous avez les tulipes.
Tulipe, vous avez un poète sublime persan qui s'appelle Omar Khayyam, pour qui la tulipe est la fleur femme par excellence, qui n'arrête pas de s'enivrer. C'est un savant, mais il buvait tout le temps. Et là, il y a des poèmes, des quatrains absolument admirables, où il boit et il boit en compagnie de tulipes. Les tulipes, ce sont les jolies filles qui sont avec lui pour l'aider à entrer en extase, etc.
Il y a beaucoup de chansons, de poèmes sur ça. Je pense à la chanson de Mouloudji, là, le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Oui. Mais pour aimer les coquelicots et les mexas, faut être idiot.
C'est énorme. Il y a toute la peinture aussi, on n'a pas
le
temps.
Il y a Les fleurs sont de mon amour par Darieux.
Mais songez à Ronsard, cher ami, mignonne, allons voir si la rose, d'ailleurs. Voilà, nous verrons si cette rose...
Mais oui, l'érotisme dans tout ça.
L'érotisme est complètement partout, puisque tantôt, il faut convaincre la femme aimée qu'il faut qu'elle profite de sa jeunesse et de sa beauté, parce que le soir, elle sera fanée. Donc, on lui suggère, moi je trouve ça un peu pénible, c'est Ronsard, ça a longueur de temps. Alors, il n'arrête pas de dire ça. Comme vous êtes belle, comme vous avez... Oh là là, mais il faut agir tout de suite. Moi, sinon, vraiment, vous serez bien vieille à la chandelle, vous regretterez le temps, Ronsard, vous aimez. Et c'est là, ça c'est le côté... Mais il y a chez Proust, les aubépines, par exemple, ou le Cattleya, l'orchidée, est tout à fait révélatrice, une allusion constante à l'acte sexuel. Alors, comme nous sommes de lourds mammifères,
c'est vrai,
dans ces affaires, les gens plus raffinés, dans un érotisme plus vicieux, je dirais, vont vers les fleurs et s'échangent des choses à travers les fleurs.
Mais il y a des fleurs qu'on ne peut pas offrir, hein, c'est pas mal vu, hein, l'œillet. C'est pas bien vu.
Il y a un catalogue au 19e, on voit ce que les fleurs signifient. Il y a eu tout un langage des fleurs.
Les roses, ça fait rêver. Le myosotis, ça fait bander.
Mais maintenant, les gens achètent des fleurs tout le temps. Ça
et la giroflée.
Ça n'arrête pas, ils s'envoient des fleurs. Mais ces fleurs ont-elles une signification symbolique? Non, je crois que là, c'est perdu. Encore au 19e siècle, il y avait...
La violette,
je vous envoie cette glaïeule, et ça veut dire... parce qu'il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le fax, les mails. Je vous envoie cette glaïeule, et si vous êtes surveillé par votre mari, ça veut dire que nous avons rendez-vous 7h.
Ah, pas mal.
Vous en offrez des fleurs, Philippe?
Non, jamais.
Pourquoi?
Moi, les glaïeuls, je suis
pour quoi? Parce que justement, je pense, je m'en offre de temps en temps, je m'offre une
ça
rose.
Ça me rappelle les yoles
je mets devant moi pour écrire. C'est tout.
Bon. Alors, les académiciens s'offrent des immortels. Ça, c'est normal.
Oui.
Mais c'est pas parce qu'ils
s'aiment. Très fadé. Hein.
Absolument. Non, mais vous, alors, vous avez une fleur préférée, sans doute, parce que vous parlez très joliment de votre jardin, vous mettez le nez dans vos plates-bandes et vous, ça se sent.
Je mets le nez, oui. Mais vous savez, les fleurs, il y a les cinq sens, c'est ça qui m'amuse. Hein, vous les voyez, vous les respirez, vous les touchez, vous pouvez les manger même, puisqu'on met des pétales de fleurs.
Ah oui, maintenant, on mange les capucines, les roses.
Et puis, alors, le problème, c'est de savoir si vous écoutez ce qu'elles disent. Là, il faut être un peu plus.
Et en même attentif. Temps, vous dites que la fleur n'est pas médiatique. Est-ce que ça a été simple? Alors, j'imagine quand même.
Pourquoi c'est un mystique célèbre du 17e siècle qui s'appelle Angelus Silesius qui vous dit cette chose admirable. La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'être vue. Voilà. Donc ça vous apprend qu'en effet, sans pourquoi, ça veut dire qu'il y a la fleur n'est pas là pour être photographiée, pour vous plaire, etc. C'est-à-dire on est en dehors de la représentation falsifiée. Une fleur fleurit. Voilà, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ben, qu'elle est là.
revisiter les classiques sous l'angle floral, honnêtement, il a fallu convaincre l'éditeur ou quand on s'appelle Philippe Solers, il n'y a aucun souci?
Oh non, l'éditeur était tout à fait séduit.
Il est bien accueilli, votre bouquin, finalement, j'ai lu.
Oui, puisque c'est très bon, mon cher monsieur.
C'est ce qu'on se disait.
Est-ce que vous avez eu un bide dans vos bouquins? Vraiment, un truc, une sorte de blessure,
non, j'ai beaucoup d'attaques, mais vous voulez parler de quoi? De la réception, de la vente, des choses.
On va parler sordide de
bide, je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement.
Vous avez été blessé parce que vous l'aimiez, ce qui est normal, ouais. Et il n'a pas été accueilli comme vous l'espériez.
Mais je n'attends pas d'être accueilli.
Alors, je vais prendre.
Je m'impose.
Non, on n'écrit pas pour soi.
Alors,
quel est celui qui
n'attends rien de la société.
Alors, puisque. Je voudrais comprendre.
Je lui soutire son.
Il y a quelqu'un qui.
C'est rouble.
Il est difficile à manier.
Oui, comme vous, hein,
frère. Ah oui, pas mal.
C'est
bien, hein,
mais parce qu'il y en a deux.
Voilà, deux comédiens.
Séparés, on est facile. Mais ensemble, c'est pas facile. Il faut prendre une sorte de respiration.
Ouais, c'est pénible, hein, vous vous rendez compte.
Oui, c'est une timide. Bah oui, regardez, une femme à côté de vous.
Alors, je vais faire une chose. Je vais faire quand même un truc où là, il ne va pas pouvoir intervenir. Ou alors, vraiment, c'est qu'il est vicelard. Ce qui ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. Je vais interactiver. J'interactif, ce qui est très rare. Je voudrais souhaiter la fête à toutes les Paules et Paula. C'est important, il y en a, c'est aujourd'hui la Sainte Paule et Paula. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une veuve romaine qui, quand elle a perdu son mec très riche, elle avait un train de vie colossal, comme ça, et elle était une sorte de célimène sublime, et elle s'est vouée au petit Jésus, elle est devenue une Arsinoé, et elle a été canonisée. Voilà, c'était Sainte Paule.
Et c'est la sainte du jour revisitée par José Arthur.
J'ai encore pleuré 2 heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer et elle a tellement insisté. Oui, mais je suis jalouse. Oui, c'est ça, tout simplement jalouse. Je suis jalouse. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage à la nitroglycérine. La bile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, je ne mangerai plus chinois. Oh, oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement. Te revoir, elle est libre plutôt le soir. Te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important. Mais c'est l'art de ma jalousie, de ne pas savoir te dire oui, ça me fait un peu bizarre.
dit l'oiseau, jalouse, il parle autant que José Arthur, c'est Philippe Solers. C'est vrai qu'un jour, Michel Rocard vous a demandé si vous écriviez réellement vos livres.
Oui, ça fait partie des cocasseries de la vie.
Et pourquoi, d'après vous, ils ont douté?
Il m'a demandé si j'écrivais moi-même mes livres, si je n'acceptais pas des interventions, des corrections, des rewriting éventuels. Et je lui ai dit, mais oui, vous savez, monsieur, c'est comme moi, si j'étais peintre, mon marchand, je fais les arbres rouges, il les expose, il les vend. Et il m'a regardé, il a réfléchi à la portée politique de ce que j'étais en train de lui dire. Et il m'a dit, de façon charmante d'ailleurs, ça ne manque pas de souffle.
C'est le mot rouge qui l'a frappé.
Les arbres rouges. Je pense qu'il les avait jamais vus comme ça.
Mon sang se coagule à l'idée qu'on puisse y changer une virgule.
C'était pas écolo, peut-être.
C'est Cyrano.
Non, pas les arbres rouges, non.
Oui, absolument.
Pourtant, Georges, oui.
Mon cher Philippe Solers, oui. Je voudrais vous aimer la peinture, vous aimez les arts, et vous le prouvez. Je voudrais qu'on rende un petit coup de chapeau à Pierre Cabanne, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parler de son départ. C'est un historien d'art, un critique remarquable. Il a fait c'est lui qui a fait, je crois, un des premiers livres sur Duchamp, sur Picasso. Et donc, il est parti. Est-ce que pour vous, quand vous aimez une peinture, puisque ça s'explique pas, la peinture, ça se sent, c'est le cas d'ailleurs, je reviens à votre bouquin, chère madame, mais vous lisez les critiques, vous vous laissez influencer, ou c'est uniquement des coups de cœur quand vous voyez sur des cimaises ou chez un marchand, ou quelque part, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou est-ce que les mentions ionisme...
Il y a des peintres qui vous attirent, puis ça devient passionnant. Puis je commence à lire, évidemment, ce qu'ils ont dit, eux. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les peintres ont dit des choses très intelligentes, tous. Vous veniez de citer deux noms.
À leur correspondance, c'est fabuleux.
Picasso, Matisse, Cézanne, l'admirable Cézanne. Vous citiez Duchamp et Picasso, voilà deux géants, en somme.
Oui, c'est une charnière, déjà.
Tout à fait opposés, pour le positif, pour le négatif. Il y a un livre de Judith Houzet, qui est la première biographie en français sur Duchamp, qui vient de paraître. J'ai appris là des choses considérables que j'ignorais sur Duchamp, notamment sa façon de vivre en Amérique, d'être couvert de femmes, etc. Donc un aventurier de très grande envergure. Les peintres sont très libres. C'est ça qui m'intéresse chez eux, c'est qu'ils inventent leur propre espace et leur propre temps. Voilà, Picasso, n'en parlons pas, c'est évident. Mais Cabanne a créé des livres très utiles là-dessus.
Vous avez évoqué l'origine du monde de Courbet dans votre livre ou pas, non ?
Ça n'est pas une fleur, encore que si
c'est
vous voulez,
une défloraison.
Mais j'ai beaucoup parlé de ce tableau, et là aussi, c'est tout récemment qu'on a eu l'historique de ce tableau fabuleux.
Oui, qui était derrière la porte.
Il est maintenant au musée d'Orsay, il a été caché pendant.
Derrière
pendant
une porte,
plus d'un
c'est
siècle.
Lacan,
ouais. Oui, mais il a été caché pendant plus d'un siècle, et il a fini chez Lacan, puis ensuite il est revenu par Budapest. Les Russes en étaient en Paris, il a fallu corrompre. Enfin, c'est une histoire de fou, il faut vraiment, c'est passionnant. Un tableau qui est caché pendant si longtemps, et brusquement, on l'expose au musée d'Orsay, ça veut dire que plus personne ne le voit. Hein, avant, il était montré dans le plus grand secret.
Parce que vous savez ce qu'a
dit... Le ministre de la Culture à l'époque, s'appelait Douce de Blasier. Voilà, c'est ça.
Allez-y.
Pour ne pas être photographié à côté de ce tableau, hautement répréhensible. Les Japonais aussi passent très vite devant parce qu'il y a des poils. Hein. Attention, il ne faut pas de poils au Japon.
Mais quand même, il y a...
Et le ministre Douce de Blasier a évité de se faire photographier. Donc, il a célébré l'entrée du tableau en tournant, en se mettant face à lui pour que tout le monde le photographie sans qu'il soit à côté du tableau, ce qu'il y aurait peut-être...
Mais
je sais
il
pas,
a quand même
c'est des ennuis électoraux à Lourdes ou ailleurs, je ne sais pas. Ouais.
Non, attendez, il faut tout de même dire ce qu'il a dit. Il y a un monsieur qui, à côté, a dit « C'est un scandale de montrer ça oui. ». Et il a eu un mot que je trouve très beau. Il a dit « Nous sommes tous passés par là ».
C'est en effet une déclaration démocratique, mais qui peut faire son effet sur le coup. Mais enfin, Courbet était un révolutionnaire, c'est tout à fait autre chose.
Alors, il y a eu, dans les fleurs, il y a tous les mots, il y a des sonnets de Rimbaud qui sont sublimes.
Il y a Rimbaud, surtout dans les illuminations, où je me suis rendu compte, et ça m'a appris aussi beaucoup de choses, que les fleurs de Rimbaud étaient comme nul autre, parce qu'elles teintent, elles sonnent, elles disent leur nom à cette aventure.
Il y a le sonnet du trou du cul qui est connu. Alors,
ça, c'est dans le regret
obscur et froncé comme un œillet violet.
C'est joli, ça. Toutes ces fleurs surgissent. Pourquoi est-ce que ça a tellement inspiré les poètes et les écrivains, les fleurs? Voilà, c'est la question que je pose. Et je crois qu'il y a les réponses.
D'ailleurs, dans votre livre, pour revenir à votre...
Genet,
Sabine Auger.
L'admirable Genet.
Oui, absolument. Mais Victor Hugo...
Qui décrit sa marche dans la campagne et son sentiment devant la fleur de Genet. C'est son nom. C'est la
fleur. Solaire, si une femme devait s'exprimer. Sabine Bourgère.
Bien sûr. Oui. Non, mais Sabine Bourgère, dans votre livre, vous donnez un truc de Victor Hugo que je n'ose même pas lire. C'est vous dire, moi, je suis très pudique.
Oui,
vous
savez, j'ai bien compris.
Micro, hein, puis je suis très réservé, jamais
un
mot plus haut que l'autre.
Je suis presque ennuyé.
J'ai toujours très peur dans la vie, comme ça, de dire les choses, vous appeler par leur nom. Mais il y a un poème de Victor Hugo qui est très mignon. Vous l'avez trouvé où, vous ce... Et ça s'appelle Le Pot, d'ailleurs.
Oui.
Hein? Écoutez, je connaissais pourtant bien l'œuvre de ce monsieur. Et ben, Le Pot, c'est... je donne envie de. Je ne vous le dirai pas, c'est pas la peine. Cherchez dans votre Hugo complet, ça s'appelle Le Pot.
Et c'est... Et j'étais tombé dessus par hasard d'ailleurs, là je me suis dit bingo.
Oui, le bingo comme ça. Mmh. Bon, vous savez que.
Pourquoi dit-on sourd comme un pot?
Ah! Question intéressante.
Est-ce vous que avez la solution.
Réponse dans la prochaine émission.
Non, vous avez la solution parce que on va
oui,
la demander.
Oui, mais je ne la dirai pas ce soir.
Ah ben on va la demander parce que vous savez qu'ils se cotisent pour savoir. Eux. Ah, oui. Hein? Alors donc, si vous savez pourquoi on dit sourd comme un pot, hein? Moi je vous dirais que tourner autour du pot chez vous.
Désolé,
hein? Mais vous pouvez nous envoyer des mails puisque vous adorez ça. Hein?
Que signifie la formule chez Proust d'Albertine qui dit brusquement au narrateur ahuri, je vais me faire casser le pot.
Ah bah ça oui, ça, c'est imagé ça.
Philippe Solers, tout à l'heure vous parliez d'insoumission, d'institution, de liberté, etc. Oui. Quels sont aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, pour
nous
vous
sommes bien aujourd'hui,
oui, on est d'accord, 2007.
Je suis là.
Voilà. Vous êtes très présents les uns les autres, il n'y a pas de souci.
Oui,
mais quels sont pour vous les derniers personnages, envie de dire, qui incarnent la liberté aujourd'hui vivant?
Je ne sais auteur pas ou trop autre. Quoi vous dire parce que je crois que la liberté est très comprimée.
À part vous,
et où que seul, je me tourne, je ne vois pas en effet avec qui vraiment jouer. Tout est très conventionnel. Vous n'avez pas l'impression? Très conformiste, très conventionnel, donc, très ennuyeux.
Vous ennuyez alors.
Vous ennuyez. Fantaisie totale.
N'est-ce pas?
Manque de fantaisie,
manque de
ce
point.
Aseptisé, on va dire.
Voilà,
l'époque est aseptisée.
Oui, c'est terrible.
Il y a le déodorant.
Ils ont une époque.
J'ai un bouquin dans la main, ça vous rappelle quelque chose là? Vous avez fait un texte sur un très, très beau truc qui est exposé, c'est les SDF qui couchent dans la rue comme ça, et on s'aperçoit qu'ils retrouvent la position fœtale ou celle du crucifié. Et vous avez écrit un texte qui est très beau, on vous l'a demandé. On vous demande souvent des choses comme ça?
Oui, beaucoup. Oui. Mais je prends peu, sauf que sur les questions aussi importantes, mortelles.
C'est le livre Livre par terre, c'est ça? Vous l'avez dans vous, José, de Philippe?
Oui,
quel est l'auteur?
Sur des photos, je crois, n'est-ce pas?
Philippe Castelbon.
Sur des photos terribles.
Aux éditions Tiresias.
Et en même temps très belles, si on ose dire, parce que oui, c'est belle aussi.
Bon, donc c'est Foller, moi je voudrais qu'on y revienne, parce que je pense que c'est vous aussi, que c'est votre intérêt. On sent d'ailleurs que vous êtes tiolé quand on ne parle pas du livre. J'ai remarqué comme ça.
Bon, ça y est, on a fait le tour de la question.
Ah non.
Oui, Solaire, c'est la barre, voyons ce qu'il écrit.
Non, parce que c'est tout de même très important. Il y a des poèmes de Baudelaire,
Du Mal, alors celui-là, vous savez, il s'est quand même donné. Du Mal pour enfoncer le clou. Les Fleurs du Mal, magnifique.
Absolument.
Et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ça vous tente pas?
Et puis il y a Les Roses de Saadi de Madame Desbordes de Valmore. Non, et puis, est-ce que vous savez, nous aurons des lits pleins d'odeurs légères? Ça, c'est peut-être une des choses les plus belles. Des divans profonds comme des tombeaux et d'étranges fleurs sur les étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Voilà. C'est difficile d'écrire mieux, ça.
L'admirable Baudelaire, on peut réciter ça sans arrêt. Mon enfant, ma sœur, songe à la douce.
Est-ce qu'il y a l'esprit d'escalier dans ces cas-là, sur un livre dans ce genre-là? Est-ce qu'on, où brusquement le livre est sorti, on fait un copain qui vous dit un texte, dit
j'ai une bibliothèque assez bien faite. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, j'appuie sur le mot fleur. Puis après, je vois mes souvenirs. Et alors, brusquement, ça sort de la bibliothèque, les textes arrivent, je les appelle, ils viennent.
Vous êtes experte en monnaie ancienne, il me semble, Sabine Bourget. Comté fleurette, c'est pas comté florette, il me semble, l'expression.
Non, fleur.
Ça rapporte plus à la monnaie qu'à la fleur.
Il y a l'écu aussi.
On y retourne, on y revient, je vois.
Okay. Oui, absolument.
Mais vous êtes séduite là, à les écouter, nos deux hommes là.
Ah oui, je suis totalement sous le charme, en fait. Mais oui, c'est vrai, tout à fait.
Le charme.
C'est vrai?
Le charme.
Oui,
c'est vrai. Votre charme.
Vous demandez jamais à la radio, bien sûr.
On vient de se connaître, maintenant ça va pas.
Et en même temps, vous savez que lors d'un dîner, dans les gens de notre génération, des trentenaires, j'ai envie de dire, excusez-nous, désistez. On m'offre plus une bouteille de vin qu'un bouquet de fleurs.
Oh, dis donc.
Et du bon vin, j'espère.
Trentenaire, vous oubliez les matinées.
Mais le vin,
Oh,
est super.
Ouais.
pourquoi vous
beaucoup,
dites ça.
Il y a beaucoup de noms de fleurs quand on décrit vraiment les bonbons.
Oh, elle y est dedans.
C'est vrai. Donc vous êtes les deux ou là, vous
Moi, j'ai Ruva plutôt.
Bah, alors, j'ai 100 ans, moi. Ah oui, parce que voilà, ils sont derrière, le violon, la fleur. Ça me réveille avec vos matinées.
Réveillez-vous.
Oui, vous êtes en train de vous assoupir.
Car moi, je me soupisse tranquillement.
J'aurais jamais osé le dire. Je voulais vous réveiller pour dire que c'est la fin de l'émission dans 10 minutes.
Jusqu'ici, c'était bien, mais là, je regrette limite d'être venu. Je vous le dis tout net.
Il faudrait être poli et écouter Philippe Val. Parce que vous dormiez là.
Oui, mais j'ai plus envie là. Je m'assoupisse tranquillement dans une odeur de fleurs et voilà le résultat.
Voilà comment mettre de l'ambiance.
Ah non, vous m'avez carrément fichu en l'air l'après-midi là. Non, les matinées, c'était dur.
Vous pouvez presque dire la soirée maintenant. Je vais vous redire un truc pour vous gâcher la soirée.
Ah non, quand même pas. Bah, on en profite, on écoute un peu de musique, vous savez. Franck AS en anglais, allez, zoom. Hein, c'est sur France Inter. Je prends mon souffle, Frankie Beverly and the Butler sur France Inter dans Inoxydable. José, ne serait-ce point l'heure de votre flingueur philosophe préféré?
Ah oui. À propos, j'ai reçu un fax comme ça du secrétariat de Sarkozy qui me dit mais pourquoi vous ne parlez pas du livre de Philippe Val? Et je lui ai fait répondre que je l'avais déjà dit une fois, mais que je veux bien lui dire, si ça lui fait plaisir, traité de savoir survivre par temps obscur chez Grasset. Et voyez, tout Sarkozy qu'il est, on m'envoie un mail, je le fais immédiatement, craintif et soumis. Philippe Val, c'est extra.
Ah, mais oui, c'est extra. Alors, généralement, enfin souvent, on entend dire les gens qui sont déçus par les hommes politiques, ils en ont assez d'être déçus. On entend aussi souvent cette phrase, les politiciens sont tous les mêmes. Alors sur ce point, je serais d'accord avec eux s'ils allaient plus loin en disant les politiciens sont tous les mêmes que nous. Parce que... Où croyons-nous que l'on déniche nos candidats, nos représentants, nos présidents, nos ministres? Sur la planète Mars, sortent-ils d'un laboratoire spécialisé dans la fabrication des responsables politiques? Non. Ils sont nés comme nous, de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde plus ou moins désiré par deux êtres humains. Lorsque vous avez sous les yeux des photographies du petit bébé Charles de Gaulle ou de Jacques Chirac ou de François Mitterrand, de Ségolène Royal, de Jean-Marie Le Pen, de Lionel Jospin, n'êtes-vous pas frappé par la ressemblance qu'il y a avec vous ou avec vos enfants du même âge? Et sur les photos de groupe faites à l'école avec l'instituteur au premier rang, s'il n'y avait pas le petit rond qui entoure la tête de celui qui est devenu président ou ministre ou pape, sauriez-vous distinguer celui qui deviendra chef, meneur d'hommes, criminel contre l'humanité, prix Nobel de la paix? Alors vous allez me dire, où est-ce que vous voulez en venir ? À ceci que, même au temps de la monarchie absolue, où il était difficile d'accuser le peuple d'avoir mal choisi ses gouvernants, il y avait une certaine identité entre le roi et ses sujets. Louis XIV n'était pas étranger à l'esprit de son temps, et il y avait dans son caractère bien des traits que l'on trouvait dans la mentalité de l'époque. D'ailleurs, le grand Corneille le fait remarquer habilement dans la célèbre scène d'engueulade entre Don Diègue et Don Gormas, lorsque le père de Chimène justifie par la sagesse d'un roi soucieux de récompenser les services passés sa nomination de gouverneur du prince de Castille. Le comte répond de façon assez subversive pour l'époque: pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes, ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Si au temps de la monarchie absolue les rois étaient déjà ce que nous sommes, alors même que les mécanismes d'accession au pouvoir suprême étaient verrouillés par la loi salique, la couronne revenant à l'héritier mâle le plus direct, que dire alors de nos représentants élus au suffrage universel ? Encore bien plus fidèlement que les rois, ils sont ce que nous sommes. Encore plus qu'ailleurs, c'est dans les états de droit que le personnel politique ressemble plus à ceux qu'il représente. Et lorsque nous les traitons de nuls, de moins que rien, de corrompus et de médiocres, c'est toujours un peu de nous que nous parlons. C'est pourquoi il serait prudent de mesurer nos paroles lorsque nous les jugeons, car notre sévérité est un boomerang. Lorsque les chrétiens eux-mêmes disent que Dieu a fait l'homme à son image, ils avouent en réalité que les hommes ont fait Dieu à leur image. De la même façon, lorsque la société crée des écoles dont sortent de futurs administrateurs ou hommes d'État, elle ne fait que concentrer des caractères et des savoirs communs au plus grand nombre dans une poignée de bons élèves. Si eux-mêmes se croient par vanité différents de nous, et nous par dépit différents d'eux, c'est l'effet d'une illusion. Lorsque Johnny chante que nous avons tous quelque chose de Tennessee, certes, il nous flatte, mais il est certain que Tennessee avait quelque chose de nous, comme Fabius, Le Pen, Ségolène et le maire de votre ville ou de votre village. En démocratie plus qu'ailleurs, le peuple produit ce qu'il mérite. Qui doute que Fabius dise la vérité lorsqu'il dit aimer la Star Academy ? Et qui ignore que plusieurs millions de Français partagent ce goût avec lui ? Alors vous allez me dire, mais que faut-il faire pour qu'il y ait plus de justice, plus d'intelligence ? J'en sais rien. Mais si majoritairement nous étions plus justes et plus intelligents, plus amoureux de connaissances, je suis sûr qu'il sortirait du chapeau électoral des hommes et des femmes dont nous serions plus fiers. Parce que, au fond, vous connaissez la blague. Pourquoi les généraux sont-ils tous des cons ? Eh bien, parce qu'on les choisit parmi les colonels. Eh bien, il en va de même pour les hommes politiques qui sont nos généraux et que l'on choisit parmi nous.
Ah, c'est pas mal. Moi, ça me plaît, moi. J'en vois qu'ils sont pas d'accord.
Merci, Philippe Ball. En tout cas, vous avez le pouvoir de rendre silencieux Philippe Soler et José Arthur. Bravo pour la performance. Hein.
Bravo pour avoir signalé au passage la loi salique, oui, qui fait que peut-être nous aurions alors... la première femme présidente de la République. On voit déjà la réception sur le perron de l'Élysée.
Ça peut être sublime.
Ça serait... le spectacle est déjà enregistré. Vous imaginez Chirac recevant Sarkozy, enfin le tuant peut-être sur le perron, oui, même, ce serait un incident majeur. Mais la voiture arrive, Chirac est là, Bernadette fait un peu la gueule, et Ségolène
et Hollande, avance, le prince consort.
Hollande viendra plus tard.
Ah non,
et ils disparaissent tous les deux. Ils disparaissent tous les deux. Parce que Chirac va montrer le bouton du clé.
Philippe Solers, merci beaucoup.
Combien attend de sous-marins?
C'est fini. Je rappelle, Fleur, le grand roman de l'érotisme floral chez Hermann Littérature. Et puis Sabine Borchet, Alain Schneider, le grand livre du petit coin chez Auré. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes complètement épuisé. Hein?
Moi, je suis éreintée.
Voilà, moi aussi, décidé, on va aller se coucher
hors d'état de nuit.
c'est pas dramatique, c'est demain, José Arthur, à 18h, avec Michel Aumont et Marcel Bluval, hein, notamment.
Absolument, entre autres, on dit toujours. Entre autres. Mais merci de votre fidélité. Ça se dit aussi, chers
merci
amis lointains.
Merci, à vendredi prochain. Oh. À bientôt. Merci à Philippe Val, Laurent Delmas et monsieur Le Déon qui n'est déjà plus là. Au revoir.